l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus pour ce Présence Midi sous la pluie. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et nous sommes avec toute l'équipe ravie de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Nous irons dans un instant du côté de Bayonne pour détailler l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Laurent avec la nouvelle responsable de la communication pour ce diocèse, c'est Nathalie Chambon qui sera au micro de Philippe Subercaz. Et puis dans cette émission, on parlera des élections municipales. Les élections municipales approchent et dans les établissements de la DAPI des Hautes-Pyrénées, on accompagne les personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent y participer elles aussi en tant que citoyennes. Ça sera le sujet abordé avec Evelyne Lucot-Rogier et Fabienne Detoisien de la DAPI des Hautes-Pyrénées. Elles seront au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis le regard des écrivains sur les Pyrénées avec Anne Lasserre, c'est toutes les semaines sur Radio Présence. Cette semaine, elle a sélectionné cet auteur qui s'appelle Marie Bruno, qui évoque dans son ouvrage pas seulement l'école des Pyrénées, mais une gare, la Tour de Carole, un entretien à écouter aux alentours de 12h50. Mais au cœur de ce magazine, c'est l'actualité régionale avec pour débuter les titres à la une. Les titres sont présentés par Lou Donneville de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
Safran Aircraft Engines a choisi le fleuron industriel Lotois pour développer les capacités de production d'une pièce du moteur M88 équipant l'avion de combat Rafale produit par Dassault Aviation. Ce partenariat stratégique avec le groupe Figeac Aero s'appuie sur les capacités industrielles du site historique de l'entreprise. Les premières livraisons sont prévues pour 2026-2027. La ville d'Auch engage un projet d'envergure dans le cadre de la rénovation urbaine avec le chantier d'une école maternelle. Inscrite dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, la future école sera implantée sur le site de l'ancien centre commercial en cours de démolition. Le bâtiment comprendra 6 classes maternelles et une petite section, ainsi qu'un centre de loisirs intégrant une unité petite enfance et un jardin d'enfants. À Lourdes, le chantier du futur centre de santé municipal poursuit son avancée. Installé dans les anciens locaux de la trésorerie rue de la Gelle, le projet franchit progressivement de nouvelles étapes avec une ouverture envisagée dès cet été. Ce nouvel équipement a pour objectif de renforcer l'offre médicale et de faciliter l'accès aux soins pour les habitants de la commune et du territoire environnant grâce à 4 cabinets médicaux. Enfin, le vote de la proposition de loi sur l'aide active à mourir aura lieu d'ici la fin du mois de février. Les évêques de France se sont largement exprimés sur le sujet, rappelant la dignité inaliénable de toute vie humaine et invitant à accompagner la vie jusqu'au bout par le développement massif des soins palliatifs sur tout le territoire. En communion avec le pape Léon XIV, ils invitent tous les catholiques à une journée de prière et de jeûne demain, premier vendredi de carême.
Merci Lou Donneville, on vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Voilà, Lou Donneville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Allez, on débute et on poursuit ce Présence Midi avec l'actualité dans nos diocèses, direction le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron avec Nathalie Chambon et Philippe Subercaz.
Présence sur le Causse, 106.5.
C'est une première pour moi et ça me fait plaisir de vous accueillir sur Radio Présence. Et c'est pas votre première pour vous puisque vous l'avez déjà fait la semaine dernière. On vous accueille, Nathalie Chambon. Bonjour.
Bonjour Philippe. Merci pour votre accueil.
Vous êtes la nouvelle responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Et donc, dorénavant, mais chaque semaine, on aura le plaisir de vous avoir sur nos antennes. Soyez la bienvenue.
Encore merci.
Avec vous, on va, comme chaque semaine, égrener notre rendez-vous agenda. 5 rendez-vous ont retenu votre attention. À la fin, bien sûr, on donnera le site internet parce qu'il y a beaucoup plus, bien sûr, de propositions. On va s'occuper plus généralement de la partie béarnaise et on débute par un rendez-vous. C'est ce soir et c'est à Pau. Il y a une conférence. J'aime bien le nom, moi. À table avec Jésus.
Oui, tout à fait. Donc, c'est les coteaux de Païs à Pau, donc, qui est le centre spirituel jésuite du Sud-Ouest, qui vous propose pendant ce temps de carême, donc, cette session à table avec Jésus, les jeudis soirs. Donc, ça commence ce soir, le 26 février. Et il y a également ensuite, au mois de mars, pendant tout ce temps de carême, de 20h à 22h, c'est à la bibliothèque de culture religieuse, qui est avenue Édouard VII à Pau. Le thème, c'est accueillir ou être accueilli. Donc, c'est un petit peu la vision de voir comment Jésus, lorsqu'il était à table avec ses différents convives, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là. Donc, au programme, prière et contempler et réflexion à partir des évangiles.
Oh, rappelez-nous peut-être l'heure de ce rendez-vous.
Oui, donc c'est de 20h à 22h et donc c'est bien ce soir la première rendez-vous, ce soir jeudi 19 février à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau.
Très bien, merci beaucoup. Ben, on va parler d'une autre conférence qui aura lieu cette fois-ci le 21, samedi prochain, samedi 21. C'est à la jolie abbaye de Belloc. Et quel est le thème de cette conférence ?
Eh bien, pourquoi rester dans l'Église ? C'est sœur Danielle, qui est une sœur Xavier, qui a été experte au synode à Rome à 2023, qui nous pose cette question. Donc, la conférence aura lieu de 15h à 17h. Donc, c'est organisé par l'association Chemin de Fraternité 64. Donc, nous vous invitons à venir débattre, écouter, pourquoi rester dans l'Église ?
Exactement, voilà, samedi 21. Alors dimanche, ça concerne tout le diocèse, bien sûr, de Bayonne, Lescar et Oloron. Ça va se dérouler à Bayonne, mais ça concerne tout le monde. C'est l'appel décisif des catéchumènes.
Tout à fait, Monseigneur Marc Ayet, donc notre évêque, appellera les catéchumènes du diocèse lors de cette messe qui sera donc le 22 février dimanche à 10h en l'église Sainte-Croix de Bayonne. Nous avons tous à cœur de bien accueillir ceux qui entrent dans l'église par cette porte du catéchuménat. Donc je vous invite à vraiment vous joindre ou physiquement ou par la prière pour accompagner nos catéchumènes cette année donc à Bayonne. Dimanche 22 février à l'église Sainte-Croix.
Voilà, c'est un rendez-vous important effectivement pour tous les catéchumènes et puis pour toute l'église en général. Nous allons parler maintenant des parcours, un parcours qui a un joli nom, le parcours Waouh, qui débute le 23 février.
Tout à fait. Ce parcours Waouh, il est proposé par le service de la formation permanente du Béarn, donc qui est à Pau. Et c'est un parcours qui permet effectivement de découvrir la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II et le beau projet que Dieu a pour l'amour humain. Il est animé par l'abbé Pierre Aramburu et Marilyn Sillière. Donc il y aura 8 rencontres les lundis soirs de 20h à 22h et la première rencontre est donc lundi prochain, le 23 février. Toutes les informations sont également sur le site internet, c'est de 20h à 22h.
Voilà, et puis on va terminer ce rendez-vous par mettre à l'honneur Saint-Augustin grâce à l'école de prière qui va proposer une formation le 24 février.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le temps du carême, c'est bien de prendre un temps aussi pour se former.
Oui.
Et donc, les deux ordres qui vivent dans notre diocèse selon cette règle de Saint-Augustin, à savoir les chanoines de la Mère de Dieu et les prémontrés de Sarance, proposent une formation qui aura lieu au centre diocésain du Béarn à Pau, les mardis. Alors, il y a deux sessions. Les mardis de 14h30 à 16h30, ou à 20h30, de 20h30 à 22h. Comme ça, que vous travaillez ou pas, vous n'avez aucune excuse pour ne pas suivre cette formation à l'école de prière. Il est conseillé de s'inscrire, donc pareil, toutes les informations sur le site internet. L'idée, c'est vraiment de redécouvrir ou de découvrir la spiritualité de Saint Augustin, dont je vous rappelle que notre pape Léon XIV est membre de cet ordre de Saint Augustin. Donc, une bonne décision de carême à prendre.
Voilà, aller se former avec l'école de prière. On va peut-être rappeler l'adresse de cette école de prière, où c'est que cela se déroulait.
Oui, tout à fait. Donc, c'est au centre diocésain du Béarn, qui est 36 avenue de l'église Saint-Joseph à Pau.
Voilà, très bien. Mais voilà, quelques rendez-vous avec ce soir. Hein. On le rappelle donc cette conférence à table avec Jésus. Et puis on terminera cette semaine le 24 février avec Saint Augustin qui sera à l'honneur. Un grand merci à Nathalie Chambon. On rappelle bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'informations sur le site internet. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de ce site?
Oui, bien sûr, toutes les informations sont donc dans la rubrique agenda du site www.diocese64.org. Donc n'hésitez pas non plus à nous envoyer des informations, oui. Et nous pourrons les relayer, et je vous souhaite une belle et sainte entrée dans cette joie des 40 jours de carême.
Un grand merci à vous, Nathalie Chambon. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, pour continuer cet échange. À très bientôt.
À très bientôt. Merci Philippe, au revoir.
Au revoir.
Voilà, merci à Philippe Subercazé qui a réalisé cet entretien. À suivre, dans un instant, on va parler des élections municipales et les élections municipales qui se préparent. L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées interpelle le grand public sur l'accès au scrutin pour les personnes en situation de handicap. C'est le sujet dans un instant qu'on va traiter Anne-Rose Jankovic avec ses invités.
Des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière.
La symphonie des éclairs à l'instant avec Zao de Sagazan. On retrouve Anne-Rose Jankovic et ses invités.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Allez, aujourd'hui, nous voici dans les locaux de l'ADAPEI à Lourdes. Nous sommes en compagnie de Evelyne Lucotte-Rouget, présidente de l'ADAPEI, et Fabienne Detoisien, attachée de direction, également chargée de communication pour cette structure. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, on va parler aujourd'hui des élections. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire qu'on vient chez vous pour parler des élections, mais vous avez beaucoup de choses à dire sur l'accessibilité de ce scrutin pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet très important. D'abord, peut-être un petit mot, Evelyne Lucotte-Rouget, pour nous présenter rapidement quand même la structure et pour mieux comprendre, du coup, après le sujet des élections.
L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, quatrième employeur du département, qui accompagne 850 personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées, avec 18 établissements et services. Donc, une grosse structure avec 650 salariés qui accompagnent ces personnes en situation de handicap. Donc le sujet des élections municipales, évidemment, est un sujet que nous avons à cœur de mener au sein de nos structures et en tant que parents d'associations militantes pour faire bouger les lignes et de la responsabilité de ces pouvoirs publics.
Ça veut dire quoi faire bouger les lignes? Ça veut dire qu'en amont des élections, alors le premier tour du scrutin, c'est le 15 mars, ça approche, ça veut dire que déjà, depuis quelques semaines, eh bien, vous interpellez les candidats ou des choses sont mises en place dans vos structures pour que les personnes que vous accompagnez puissent elles aussi suivre la campagne, c'est ça?
Plusieurs choses. Effectivement, Fabienne interviendra tout à l'heure pour expliquer ce qui a été mis en place au sein des établissements et notamment sur ça veut dire quoi d'être un électeur et comment je me comporte quand je suis un électeur. Ça, c'est pour les personnes que nous accompagnons. Et nous avons mis en place des élections à blanc. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, le « Vie ma vie », on se prépare et effectivement nous en tant qu'électeurs qui ne sommes pas en situation de handicap, ça peut nous paraître facile de se rendre dans un bureau de vote, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est pas inné.
Ça veut dire que vous avez installé ici un faux bureau de vote pour qu'ils puissent avoir des repères?
Absolument, nous avons installé dans plusieurs établissements des faux bureaux de vote avec de faux candidats qui peut-être demain seront des vrais s'il y a des homonymes, mais en tout cas avec de faux candidats et avec tout le process. J'arrive dans le bureau de vote, je présente ma carte d'identité, je vérifie que je suis bien inscrit sur les listes électorales et je choisis un bulletin, je vais dans l'isoloir et ensuite je mets mon bulletin de vote dans l'urne. Donc ça fonctionne et ça interpelle, ça rend responsable aussi les personnes en situation de handicap.
Ça interpelle, ça veut dire qu'il y a eu des réactions, des questions quand vous avez mis en place ce coup d'essai, Fabienne Detoisien?
Complètement. Alors, les personnes, au début, sont un peu curieuses. Alors, on avait fait aussi, il faut savoir, on avait fait faire un isoloir par notre atelier pour que vraiment on soit vraiment dans les conditions du vote. Et alors, au début, les personnes s'interrogent parce qu'elles nous disent « Oui, non, mais les personnes-là, on ne connaît pas ces personnes. » Donc, il a fallu leur expliquer que c'était une mise en situation. Mais voilà, elles ont plein de questions. Mais elles nous posent aussi des questions, savoir à quoi servent les élections. Alors, elles avaient déjà été informées en amont aussi. On avait prévu l'intervention d'une un ancien maire qui était venu pour expliquer ce que sont les élections municipales, ce qu'est un maire, ce qu'il fait dans sa commune, qu'est-ce qu'on attend d'un maire. Donc ils ont déjà été bien informés et là, bon, bien sûr, ils nous posaient des questions. C'était plutôt chouette. Ils ont beaucoup aimé la mise en situation.
Alors cette mise en situation, elle les prépare aux aspects un peu pratiques, logistiques du moment du vote. Mais alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir en amont comment vous pouvez les accompagner pour que, eh bien, ils puissent choisir leur candidat, parce que voilà, ils ont aussi en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, un choix à faire. Faut peut-être aussi les accompagner à ce niveau-là. Est-ce que c'est aussi votre lieu d'accompagnement?
Alors, on n'influe pas sur évidemment sur le bulletin qui va se retrouver dans l'urne. Par contre, tout le travail qui peut être fait autour du facile à lire et à comprendre, où on incite les candidats à utiliser une transcription de leur programme et de leur profession de foi en facile à lire et à comprendre, en FALC, va amener les personnes vivant avec un handicap à comprendre en fait ce qui se retrouve dans le programme des candidats. Et donc moi, mon job en tant que présidente de l'ADAPI sur ces municipales, c'est d'interpeller les candidats qui se présentent pour les municipales, donc sur toutes les communes où nous avons des établissements principalement, de les rencontrer. Parce qu'au-delà de les interpeller, c'est aussi les rencontrer et avoir de vrais échanges avec eux pour savoir où est-ce qu'ils, comment, ou à quel niveau, à quel curseur ils vont mettre le handicap dans leur programme. C'est aussi leur rappeler leur obligation. Parce que faire de la politique, c'est pas juste désirer être maire d'une commune, c'est aussi avoir des obligations et leur rappeler leur obligation à travers les textes. Nous avons également interpellé le préfet. Enfin, plutôt inviter le préfet à nous soutenir dans la démarche et en tant que garant de l'État d'une bonne organisation des élections, il doit aussi être garant de l'accessibilité des bureaux de vote pour les personnes vivant avec un handicap.
Est-ce que sur l'histoire des programmes, les candidats sont réceptifs à ce que vous leur suggérez ?
Oui, pour certains.
Et puis, c'est pas un oui très, très franc. Vous aimeriez que ce soit plus facile, plus évident, que les choses soient plus fluides ?
C'est pas un oui franc parce que malheureusement, je pense qu'encore aujourd'hui, le handicap est vu comme une source de dépenses et pas une source de recettes. Et j'entends par là, on ne sait pas utiliser ou on ne voit pas les capacités en fait des personnes en situation de handicap à faire.
Pourtant, pardon, mais ça fait 20 ans que, enfin même plus que ça, mais en tous les cas, il me semble qu'en 2005, il y a eu quand même une loi importante qui était censée ouvrir les yeux un petit peu.
Vous l'avez dit, était censée ouvrir les yeux. Et effectivement, en période électorale, les élus sont toujours très attentif à ce qui peut se passer, donc potentiellement des bulletins de vote dans une urne. Mais est-ce qu'il y a un vrai engagement autour du handicap ? Et le handicap, c'est pas juste des trottoirs. L'accessibilité universelle, c'est je dois rendre accessible tous mes projets et pour les personnes vivant avec un handicap. Donc c'est pas juste dire mais j'ai rendu accessible et ils vont pouvoir passer par la rampe. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a le handicap physique, mais il y a aussi le handicap intellectuel. Il y a ces personnes, elles doivent accéder à tout ce qui peut exister sur une commune. Ça veut dire l'école, la culture, le sport, les loisirs et tout ce que l'on peut organiser, tout ce qu'une mairie peut organiser sur son territoire pendant son mandat.
Donc il y a un engagement, il y a un engagement moral, mais il y a un engagement financier qui devrait être évident. En tous les cas, c'est ce que vous appelez de vos voeux.
Il y a un engagement financier et ça se décrète pas. C'est pas juste qu'est-ce qui nous reste sur le budget ? Ça veut dire qu'on doit l'anticiper. Évidemment, il y a tellement à faire. 20 ans que la loi elle existe et il faut se poser aussi la question pourquoi a-t-il fallu passer par une loi pour faire comprendre quand même aux citoyens qu'il y avait des personnes d'une certaine avec une vulnérabilité et qui pourtant sont des citoyens. Ce ne sont pas juste des gens qui sont les boulets entre guillemets de la société. Ils existent réellement à l'économie aussi d'une commune ou d'un pays.
Et ils votent, ils sont citoyens, vous l'avez dit. Est-ce que sur des listes, il y a des personnes aussi en situation de handicap qui peuvent aussi apporter des choses dans une vie municipale tout en ayant un handicap ? L'un n'empêche pas l'autre.
Vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre. Il pourrait y avoir des personnes vivant avec un handicap sur les listes. Aujourd'hui, je reste quand même assez dubitative. Et sur... Le terme va être un peu fort, mais je vais l'utiliser volontairement comme ça, sur l'utilisation d'une personne en situation de handicap sur une liste électorale. Et je le porte réellement comme ça parce que je ne voudrais pas, surtout une personne déficiente intellectuelle ou avec un autisme ou avec une trisomie qui peut avoir un besoin extrêmement fort de s'investir, ou un désir même d'ailleurs extrêmement fort de s'investir dans sa commune, mais il faut un temps et il faut une acculturation de la société. Mmh. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans l'entre-deux et je ne voudrais pas cautionner l'utilisation en fait d'une vulnérabilité pour faire croire que nous sommes totalement investis auprès des personnes en situation de handicap.
Pourtant, c'est peut-être le risque à prendre pour faire bouger le regard et les choses.
Ça sera le risque à prendre, c'est évident. Il faudra passer le pas. Mais il y a un accompagnement à faire. Ça veut dire qu'il y a une acculturation, même en interne, hein, dans les établissements médico-sociaux, auprès des familles et auprès des personnes elles-mêmes. Ça veut dire qu'il faut que l'on amène aussi ce civisme et dès l'IME. Dès le plus tendre âge, où on doit accompagner ces jeunes enfants à comprendre en fait qu'ils évoluent dans une société, ouais. Et qu'ils évoluent dans une société où ils ont quelque chose à dire.
On marque une pause dans cet entretien. Nous retrouvons Anne-Rose Jankovic dans un instant. Anne-Rose Jankovic et ses invités. Anne-Rose est au siège de l'ADAPI de Lourdes. La suite, c'est juste après le journal régional. Un journal présenté par Lou Denneville de l'École de journalisme et de communication de Blagnac.
Le groupe lotois Figeac Aéro révèle avoir été choisi par Safran pour produire des pièces de moteur M88. Safran Aircraft Engines a choisi le fleuron industriel lotois pour développer les capacités de production d'une pièce de structure métallique du moteur M88 équipant l'avion de combat Rafale produit par Dassault Aviation. Ce partenariat stratégique s'appuie sur les capacités industrielles du site historique de l'entreprise basée à Figeac ainsi qu'en Auvergne. Les premières livraisons sont prévues pour 2026-2027. Ce nouvel accord entre Figeac Aéro et Safran fait suite au dernier développement du turboréacteur militaire annoncé en mai dernier. Une bonne nouvelle pour les sites français du groupe, dont celui situé à L'Aiguille, où la production devrait être en partie concentrée. La ville d'Auch engage un projet d'envergure dans le cadre de la rénovation urbaine avec le chantier d'une école maternelle. Le Grand Garros poursuit sa transformation, réuni le 6 février. Le conseil municipal a franchi une étape décisive en adoptant à l'unanimité deux délibérations lançant la construction d'une nouvelle école maternelle. Celle-ci est destinée à remplacer l'actuelle école Jean Roustan devenue vétuste, inscrite dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. La future école sera implantée sur le site de l'ancien centre commercial en cours de démolition. La facture a été révisée à la baisse pour atteindre 3,8 millions d'euros. Le bâtiment comprendra, lui, 6 classes maternelles et une petite section, ainsi qu'un centre de loisirs intégrant une unité petite enfance et un jardin d'enfants. À Lourdes, le chantier du futur centre de santé municipal poursuit son avancée. Installé dans les anciens locaux de la trésorerie, rue de l'Angèle, le projet franchit progressivement de nouvelles étapes avec une ouverture envisagée dès cet été. Ce nouvel équipement a pour objectif de renforcer l'offre médicale et de faciliter l'accès aux soins pour les habitants de la commune et du territoire environnant. Le futur centre de santé municipal doit accueillir 4 cabinets médicaux, un cabinet de soins, d'infirmiers, 2 salles d'attente, une salle de réunion ainsi qu'un espace administratif et des locaux dédiés au personnel. Pour l'instant, les travaux de la toiture se poursuivent, tandis qu'à l'intérieur, les opérations du second œuvre ont débuté avec la mise en place des isolants coupe-feu, des cloisons et des plafonds. Enfin, le vote de la proposition de loi sur l'aide active à mourir aura lieu d'ici la fin du mois de février. Loin de l'unanimité espérée par certains, ce sujet suscite des inquiétudes et de vives oppositions. Les évêques de France se sont largement exprimés sur le sujet, rappelant la dignité inaliénable de toute vie humaine et invitant à accompagner la vie jusqu'au bout par le développement massif des soins palliatifs sur tout le territoire. En communion avec le pape Léon XIV qui appelle, je cite, « à défendre la dignité intrinsèque de toute personne », alors même que notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure, les évêques de France invitent tous les catholiques à une journée de prière et de jeûne demain, premier vendredi de carême.
Voilà pour l'actualité régionale. Merci à Lou Donneville. On la retrouvera dans la journée pour de nouveau un point sur l'actualité régionale. Et à 13h, ce sera l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Les élections municipales approchent et dans les établissements de la DAPI des Hautes-Pyrénées, on accompagne les personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent y participer elles aussi en tant que citoyennes. C'est le sujet abordé dans la deuxième partie de cet entretien avec Anne-Rose Jankovic et ses invités. Elle est avec Evelyne Lucotte-Rougier et Fabienne de Toisien de la DAPI des Hautes-Pyrénées.
Aujourd'hui, est-ce que je ne sais pas si on peut appeler ça une conscience citoyenne. Est-ce que vous en parlez un petit peu là quand vous les préparez aux élections municipales? Est-ce que ces personnes en situation de handicap prennent conscience que ben oui, elles aussi, elles ont des choses à dire et qu'elles ont le droit de le dire et qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans la société?
On appuie et Fabienne appuiera avec justement tous les documents qu'elle peut travailler au niveau de l'atelier FALC, déjà ouvrir un atelier FALC pour la transcription, c'est un premier pas en interne à la DAPI pour effectivement se mettre. C'est pas juste accompagner des personnes dans leur quotidien, c'est aussi leur donner les outils pour qu'elles puissent communiquer. Et nous nous sommes investis très tôt à la DAPI pour en tout cas acculturer aussi ces personnes et leurs familles et les professionnels à se considérer comme des citoyens. Donc c'est long, c'est très long, parce qu'en fait, pendant des années, on n'a fait que dire qu'elles étaient à la charge de...
Et elles ne votaient pas ?
Et elles ne votaient pas.
Elles pouvaient, mais on ne les accompagnait pas, on ne les encourageait pas à le faire.
Mais on ne les encourageait pas, et même dans les éléments de langage, on disait les personnes prises en charge. Dans les établissements. Elles ne sont pas prises en charge, elles sont accompagnées et elles bénéficient en fait d'une orientation parce que c'est un droit et elles bénéficient d'un accompagnement dans certains actes de la vie parce qu'elles en ont besoin. Donc elles ne sont pas à la charge de la société parce que ce qu'elles peuvent percevoir d'un côté, elles le redonnent de l'autre. C'est ce que je dis, elles participent à l'économie. Y a un impact fort qu'on a tendance quand même un peu à oublier. Et sur l'engagement de la DAPI auprès de l'accompagnement, nous avons commencé dès les élections européennes en 2019, quand justement les personnes, notamment sous protection juridique, ont retrouvé ce droit de vote. Parce que c'était quand même assez dingue que, par exemple, des personnes incarcérées, pour certaines, n'ont pas perdu leur droit de vote, et que des personnes... parce qu'elles sont en situation de handicap et parce qu'elles ont besoin d'un mandataire judiciaire ou d'une protection juridique pour certains actes, aient perdu ce droit de vote. Donc ça a été un premier combat du mouvement parental de l'UNAPI. Et en 2019, nous avions organisé un colloque avec la préfecture à l'époque, et avec des partenaires espagnols, donc à travers un projet transfrontalier, pour expliquer ce qu'était le droit de vote en Espagne et en France. Un colloque qui a interpellé beaucoup, parce que c'est là où on a vu qu'il y avait un décalage entre la France et l'Espagne. Les Espagnols n'ont jamais perdu, enfin en tout cas ont toujours eu cet acte citoyen, alors qu'en France on ne l'accompagnait pas. Le mouvement UNAPI, donc au niveau de la tête de réseau, insiste, et porte aussi ce droit. C'est-à-dire que ce pourquoi nous existons, au-delà de l'organisation quotidienne de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est aussi, en fait, défendre leurs droits. Et quand défendre ses droits, c'est tout simplement un citoyen qui, à un moment donné, doit être inscrit sur les listes électorales. C'est un premier droit. Et il est reconnu comme un citoyen à travers cela. Après, qu'il aille mettre un bulletin dans l'urne, ça lui appartient, comme tout à chacun. Il ne faut pas tout mélanger. Et c'est là où il faut que les professionnels l'entendent, que les familles l'entendent, et que les candidats l'entendent. Mais qu'ils puissent repérer qu'une personne en situation de handicap est un électeur à part entière, est un citoyen avec des droits. Et il faut respecter cela.
Merci beaucoup Evelyne Lucotte-Rougier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Fabienne de Toisien pour terminer sur peut-être un peu les aspects pratiques? Là vraiment on approche du premier tour des élections, c'est dans moins d'un mois. Comment concrètement, comment ça se prépare?
Alors ben déjà là, on a vraiment fait le plus gros du travail, puisqu'on a...
Là, tout le monde a été à tester le bureau de vote.
Voilà. On avait mis cinq simulations sur cinq établissements différents où on invitait toutes les personnes qui le souhaitaient à venir tester ce qui était qu'une action de vote. Donc voilà, on a eu quand même beaucoup de participation, et essentiellement sur les ESAT, sur les foyers. Voilà, ils ont eu énormément de participation. Ça les a rassurés de pouvoir se mettre en situation. Alors, en plus, nous, au niveau de l'atelier FALC, on a un atelier FALC, du facile à lire et à comprendre. Mmh. On a créé des documents. Ouais. Pour faciliter justement l'acte de vote ou l'accès au vote. Et voilà. Et ça a été travaillé avec des personnes de chez nous. On a pris le temps et on a créé des documents, donc qui soient accessibles, qu'on a diffusés dans tous nos établissements. Voilà. Déjà, ça a été un premier document.
Au sein de l'atelier FALC, dont Fabienne est responsable, ce sont des personnes en situation de handicap qui transcrivent. Donc, et ça, c'est important aussi de le dire. Ça veut dire que on a pu avoir des demandes de certains candidats pour les élections ils nous ont demandé de transcrire leur profession de foi ou leur programme. Je voudrais aussi donner une alerte parce que par rapport à l'intelligence artificielle, certains candidats utilisent l'intelligence artificielle pour transcrire leur programme ou leur profession de foi en facile à lire et à comprendre. Alors sur le papier, en premier abord, quand on n'a pas suivi la formation, on pourrait penser qu'on a réussi son coup et que le programme va vraiment être accessible aux personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, ça ne remplace pas la transcription par un atelier facile et lire à comprendre, et surtout par la compréhension que les personnes elles-mêmes vont mettre dans cette transcription. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, oui, elle va faciliter, sans doute, elle va donner les pistes, mais elle ne remplacera jamais une personne en situation de handicap qui va transcrire un document classique en document transcrit en FALC.
Voilà. Ben merci beaucoup.
Il ne faut pas oublier que la première règle du facile à lire et à comprendre, c'est la participation des personnes en situation de handicap. C'est la première règle. S'il n'y a pas de personne en situation de handicap dans le FALC, ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est l'essentiel.
Merci beaucoup pour vos réponses, pour votre éclairage. Et on voit que les choses avancent, les choses bougent. En tous les cas, pour ce scrutin municipal de mars 2026, il y a des choses qui n'existaient pas au précédent scrutin. Voilà, on voit que ça avance, mais qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Merci beaucoup pour vos réponses, Evelyne Lucotte-Rougier, Fabienne de Toisien. Je rappelle que nous étions aujourd'hui dans les locaux de l'ADAPEI 65 à Lourdes. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé cet entretien. La suite de Présence Midi, c'est avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Ça sera dans un instant. Marie Bruno, c'est l'auteur qu'a sélectionné cette semaine, Anne Lasserre. Marie Bruno évoque dans son ouvrage les cols des Pyrénées, mais pas seulement. Elle fait aussi un passage dans son ouvrage sur la gare de la Tour de Carole. Ça sera à suivre dans quelques minutes.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante. Devenir un soir à vos genoux.
Dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour Nala Serre.
Bonjour Philippe.
Voilà, comme chaque semaine, tranquillement installé dans le studio de Radio Présence. J'aime bien cette chronique parce qu'on apprend des choses, on voyage pas mal avec vous. Et puis bon, il suffit de fermer les yeux, d'écouter votre voix. Et là, on est vraiment parti. On pense à toutes ces personnes qui malheureusement ne peuvent plus parce que 3G, parce que voilà, peut-être malades, et qui nous écoutent. Et je sais que c'est leur moment de récréation. On apprend des choses, on voyage, on imagine des paysages grâce à votre belle voix. Hein.
Merci Philippe.
Alors aujourd'hui, nous partons tout à fait à l'est de la chaîne des Pyrénées pour une destination surprenante, une gare. Ah, une gare, mais pas n'importe quelle gare, celle de la Tour de Carole qui se situe à proximité de la frontière.
En effet, parce que dans leur ouvrage « Passage, les Pyrénées du nord au sud et réciproquement », Marie Bruno et Bertrand Grenier ne se contentent pas d'évoquer des cols, des sommets, des vallées, Philippe. Ils consacrent aussi un chapitre à la gare de la Tour de Carole et le chapitre a un titre plein d'humour « Ici, le passage est à niveau. »
Oui, oui, le niveau des Pyrénées, oui.
Oui.
C'est un livre original, abondamment illustré, écrit en marchant. Comme le disent les deux auteurs, ce livre a été couronné par le prix Pyrénées-Byrnos en 2015. Je crois, hein, c'est ça.
Oui, je crois que c'est en 2015. Hein. Et les auteurs, donc, s'intéressent à différents lieux de passage, d'un versant à l'autre. Et plus qu'à un guide, cet ouvrage ressemble à un récit de voyage où se mêlent histoire, poésie, géographie, aventure humaine, etc.
Alors, vous avez choisi de nous parler de la gare de la Tour de Carole, car on a entrepris des travaux considérables pour permettre au train de franchir les Pyrénées. Mais un écart de 23 cm entre les voies ferrées françaises et les voies ferrées espagnoles a freiné le développement du trafic ferroviaire. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Lire « Passage, les Pyrénées du nord au sud », c'est parcourir les Pyrénées d'ouest en est avec Marie Bruno et Bertrand Grenier. s'est emprunté avec eux les sentiers qui relient le versant nord des Pyrénées au versant sud. C'est gravir les cols du Pays Basque ou le col de la Pierre Saint-Martin, aller à la Brèche de Roland, au port de Vénasque ou encore dans les Pyrénées orientales, à la gare de la Tour de Carole où nous les accompagnons aujourd'hui. Été 2007. Nous cherchons ce matin, en descendant Sacodo, entre pinèdes et prairies sèches, à retrouver dans notre mémoire les paroles de cette longue chanson de Brigitte Fontaine. Monsieur le chef de gare de la Tour de Carole, vous étiez très pâle à 7h du matin. Vous aviez les paupières froissées, et ça n'avait d'importance pour personne au monde. Ce qui est une chose horrible et normale. Moi, j'étais descendue 4 stations avant et je ne vous verrai jamais. La Cerdagne est à nos pieds, champs fraîchement moissonnés, prés encore étonnamment verts, grappes de villages, semis de hameaux dispersés. Ici, ce doit être Puycerda. Et ce grand bâtiment là-bas, c'est la gare de la Tour de Carole. Il fait très chaud sur le chemin pierreux qui descend à Gils de Cerdagna. Maisons imposantes, murs de pierre noire et toits d'ardoise. Par quelques portails entrouverts, on aperçoit des gazons dignes de vrais jardins anglais. Nous quittons ici le GR11 pour allier cette étrange gare internationale, installée au milieu de nulle part, où nous espérons un train pour allier Toulouse. Passé le village de la Tour de Carole, un enchevêtrement impressionnant de pylônes et de caténaires annonce la gare. Architecture ferroviaire du premier quart du XXe siècle. Stricte géométrie des bâtiments tout en longueur le long des voies. Parking étonnamment désert. Entrons. Le point presse est fermé. Personne derrière le guichet, mais il est où le chef de gare? Les fiches horaires et les dépliants publicitaires sont là, bien rangés dans leur présentoir. Tout semble pourtant abandonné, toutes portes ouvertes. Même impression du côté des voies. Vraiment personne? Le temps paraît s'être figé. On croirait que la vie s'est arrêtée. Si ce n'était cette odeur tenace, caractéristique, qui imprègne les lieux en profondeur. Mélange de graisse rance et de câbles électriques surchauffés. Et ce bourdonnement continue comme si quelque puissante machinerie tournait au ralenti. Vaguement inquiétant. Sous l'auvent d'une voie démesurément longue, d'autres détails nous apparaissent, révélant progressivement une sorte de vaste décor, dressé probablement pour les besoins de quelques films à gros budget. Nous voilà transportés dans les années de l'après-guerre froide. George Smiley, le héros de John le Carré, a probablement rendez-vous ici avec un correspondant venu lui remettre en main propre une certaine valise de documents. Et ce décor est particulièrement convaincant. Quais usés par les ans, chariots à bagages échoués au milieu d'herbes folles, fenêtres murées, tags dans le goût des 70s, jusqu'aux technologies ferroviaires qui semblent d'un autre âge. Tiens, voilà les figurants. Cet homme qui entreprend d'installer la terrasse du bistrot de la gare. Quel client espère-t-il? Et l'élégante valise rose de cette jeune femme brune, n'est-elle pas trop lourde? Ou trop rose? Ces deux amoureux enlacés qui sommeillent sur un banc, dans l'attente de quelle improbable correspondance? Et nous? Que faisons-nous là? Et quel est notre rôle dans cette mise en scène dont nous ignorons tout? Ding dong dong! Une sonnerie retentit, amplifiée en écho tout au long des voies désertes. Le train numéro 146-788 en provenance de Barcelone va entrer en gare, voie A. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'annonce sonore parfaitement conforme aux normes SNCF, entendu maintes fois sur d'autres quais, dans d'autres gares, nous tire brutalement de notre rêverie. Le chef de gare de la Tour de Carole fait une brève apparition. C'est une jeune femme qui porte uniforme, casquette et sifflet. Et voici qu'apparaît le train, orange, avec un R comme RENFE, la Société Nationale d'Exploitation des Chemins de Fer Espagnols, peint en blanc sur son nez. Il stoppe au terminus de sa voie, à moins d'un mètre de la barrière qui la borne. Et voilà des voyageurs, encombrés de bagages comme il se doit. Valises à roulettes pour les uns, lourds sacs à dos pour les autres, parfois les deux. Ici commencent les vacances, ici commence la montagne. Ils traversent les voies à niveau. De ce côté-ci, un panneau indicateur annonce l'Espagne, quai 2, voie A, en sens inverse de leur passage. Les voici donc arrivés en France. Bientôt, un nouveau train s'annonce. C'est un TER, train express régional, affrété par la région Midi-Pyrénées en provenance de Toulouse. Il stoppe et livre à son tour son lot de voyageurs, dont certains prendront sans doute le chemin de l'Espagne, quai 2, voie A. Ainsi donc, quelques trains se donnent rendez-vous à la gare de la Tour de Carole Anvest pour permettre à ceux qui les empruntent de passer de France en Espagne en traversant d'un quai à l'autre une ligne virtuelle symbolisée ici par ce passage à niveau à quelques centaines de mètres du tracé officiel de la frontière. Mais pourquoi changer de train ? 23 cm. C'est la différence entre les écartements des rails français, 1,43 m, et espagnols, 1,66 m. Les trains qui viennent de France ne peuvent donc pas rouler au-delà de la frontière et inversement. Une petite différence de 23 cm seulement, et voici que la frontière entre la France et l'Espagne s'impose là où on ne l'attendrait pas. En Europe, l'écartement des rails est le même, sauf en Espagne et en Russie. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Marie Bruneau et Bertrand Grenier, ouvrage intitulé « Passage, les Pyrénées du Nord au Sud et réciproquement » et publié par les éditions Kern en 2014.
Et voilà Anne, comment 23 cm de différence pour rendre plus difficile des liaisons ferroviaires entre l'Espagne et la France. Était-ce pour se préserver contre tout risque d'invasion que, dans les années 1850, l'Espagne a opté pour un écartement différent ?
On peut se le demander, hein, ouais. Philippe. En tout cas, il est vrai que la présence des armées napoléoniennes en Espagne était encore dans toutes les mémoires dans les années 1850.
En tout cas, même si les frontières ont, en principe, aujourd'hui, disparu, elles existent toujours pour les trains français et espagnols, puisque cet écart ne s'est jamais réduit.
La preuve, oui. Mais elles n'existent pas pour les marcheurs. Et ce livre nous invite à parcourir, comme le font Marie Bruneau et Bertrand Grenier, les passages qui relie la France à l'Espagne.
Il nous y invite d'autant plus qu'en lisant ce livre, nous ressentons à quel point les auteurs aiment les Pyrénées, la beauté sauvage de ces montagnes.
Voilà. Oui, on le sent vraiment dans ce livre, Philippe. Vous avez raison.
La semaine prochaine, nous irons dans les Pyrénées. Alors, on part de l'Est, on ira complètement à l'Ouest, puisque nous partirons dans les Pyrénées.
En voyage.
À Oloron-Sainte-Marie, avec le poète Jules Supervielle.
Supervielle, oui. Qui est d'ailleurs enterré à Oloron-Sainte-Marie.
Eh bien écoutez, ça sera notre prochaine destination. Merci beaucoup Anne Lasserre. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Philippe.
Présence à Toulouse, 97.9.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio.
www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.
Radio Présence à Argelès-Gazost 91.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Ravivez le don de Dieu, c'est l'exhortation lancée par Léon XIV aux prêtres de son diocèse. L'évêque de Rome les a reçus ce matin en audience au